Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Merci de votre fidélité de bon matin. On salue les nouveaux arrivants. Bon réveil à vous. Et on vous emmène au beau milieu d'un public en folie quand cris, chants et applaudissements rivalisent avec les enceintes d'une salle de concert.
Voilà, vous avez reconnu Indochine, hein, évidemment, qui crée l'événement cette année avec sa tournée des stades. Ils sont 5 sur scène. Quand en coulisses, ceux qui veillent au bon fonctionnement du concert sont plusieurs centaines.
Oui, mais ces machinistes, ces techniciens, son et lumière commencent à manquer.
Oui, alors que les shows des artistes reprennent de plus belle avec cette envie d'oublier la crise sanitaire dans l'ombre. Les tourneurs, eux, ont de plus en plus de mal à recruter les intermittents qui, à cause du Covid, ont changé de métier.
Est-ce qu'on risque de voir des concerts, des festivals annulés par manque de bras?
On posera la question à 5h45 à Alexandre Coulet. Il est gérant de S Group, une société spécialisée dans l'événementiel. À la une, ce 25 mai, Julien.
L'horreur absolue au Texas. 22 personnes, dont 19 enfants, ont été abattues cette nuit par un jeune homme de 18 ans qui a ouvert le feu dans une école primaire. On y revient bien évidemment dans nos journaux.
L'actualité, ce sont aussi les combats qui s'intensifient en Ukraine.
Oui, dans le Donbass et plus particulièrement autour de Sievierodonetsk, l'un des derniers verrous de la région de Lugansk. La ville est encerclée par l'armée russe et pilonnée jour et nuit. Et si ça vous rappelle quelque chose, eh bien c'est normal. Sievierodonetsk est surnommée la Mariupol du Donbass.
C'est l'illustration de la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine.
3 mois après le début de l'invasion et l'échec de la guerre éclair, le Kremlin semble miser désormais sur un conflit qui dure, une guerre de l'usure dans laquelle les troupes russes grignotent peu à peu le sud de l'Ukraine. On en parle à 6h10 avec notre invité, l'historien militaire Cédric Mas. Et puis on terminera l'émission avec votre partition.
Un phénomène de la musique américaine. Lizzo est une chanteuse, rappeuse, flûtiste. Elle se moque bien des conventions. Rendez-vous dans la partition. Rendez-vous avec Lizzo et la partition à 6h20.
C'est noté. On commence avec la météo tout de suite à 4h59. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Le ciel est un peu plus clair qu'hier.
Oui, sur la plupart des régions, on voit de belles étoiles ce matin. Les nuages ont disparu. Le ciel est dégagé. On va avoir un temps plutôt calme. Sur l'ensemble des régions, c'est dans l'extrême sud que c'est pas terrible. Là, on a un temps instable avec des averses. Entre les Pyrénées et la Côte d'Azur, on aura même des orages sur la Croisette ce matin pendant le Festival de Cannes. Cet après-midi, les nuages sont un petit peu plus nombreux sur la moitié nord. On a un temps humide sur les côtes de la Manche. Sur les Pyrénées, c'est toujours agité avec pas mal d'orages. 8 à 18 degrés du nord au sud ce matin et 17 à 23 en général, jusqu'à 27 au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Soyez tous les bienvenus. Et à la une ce matin, l'Amérique en deuil. Nouvelle fusillade cette nuit dans une école du Texas. Bilan 22 morts, dont 19 enfants. Énième massacre qui relance le débat sur les armes selon Joe Biden, le président américain. Nous serons sur place dans un instant. Mais où est passée la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? On ne devrait pas en entendre parler avant quelques mois. Pour quelles raisons? Réponse à suivre. Et puis Guten Tag, le TGV Paris-Berlin, c'est pour bientôt. Un trajet plutôt long, 7 heures, mais le PDG de la SNCF en est certain. Le train a de l'avenir et les voyageurs seront au rendez-vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et ce journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Une dizaine de jours après la fusillade de Buffalo, l'horreur frappe une nouvelle fois les États-Unis avec cette tuerie cette nuit dans une école du Texas située entre San Antonio et la frontière mexicaine. Le bilan est très lourd, au moins 22 morts, dont 19 enfants. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. On en sait plus sur le profil du tireur ce matin.
Oui, il s'appelle Salvador Romas, il a fréquenté le lycée local, alors le motif reste encore très flou, mais on commence à y voir plus clair sur le déroulé des événements. Selon les autorités, le jeune homme a agi seul. Il aurait d'abord tiré sur sa grand-mère avant de prendre la route. Il a un accident de voiture près de l'école et pénètre alors dans l'établissement habillé d'un gilet pare-balles, une école qui accueille des élèves de CE1, CE2 et CM1. Pour le moment, on ne sait pas quelles armes ont été utilisées ou si le tireur est entré dans une seule ou dans plusieurs classes. Après avoir blessé plusieurs policiers, il a été abattu. Et cette nuit, c'est un Joe Biden ému qui a pris la parole depuis la Maison-Blanche.
Pour l'amour de Dieu, quand allons-nous faire face au lobby des armes? Je suis fatigué, écœuré. Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir un effet sur ce carnage.
Mais pour le président américain, c'est une démonstration d'impuissance. Il dénonce sans arrêt une épidémie de violence par arme à feu aux États-Unis. Et pourtant, les fusillades ne cessent pas. C'est la 212e de l'année 2022. L'opposition républicaine bloque toute réforme sur le port d'armes. Assez, c'est assez, a dit la vice-présidente Kamala Harris. Que faisons-nous ? S'est interrogé un sénateur démocrate dans un mélange de fatigue et de colère.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
On revient en France à 5h02 sur Europe 1. Rejetée massivement par la gauche, la réforme des retraites se fait un peu oublier en ce moment.
Oui, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, c'était le cheval de bataille d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Décaler progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans, j'axerais ce silence de l'exécutif sur cette réforme pour le moins explosive et volontaire.
Oui, Emmanuel Macron a capitalisé sur le projet de cette réforme pour aller chercher les électeurs de droite durant la présidentielle. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Changement de braquet et mise en avant de la nouvelle méthode. Lors du premier conseil des ministres lundi, il n'en a d'ailleurs même pas été question, pas un mot sur l'âge de départ à la retraite, car le président s'est fixé d'autres priorités. L'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. L'heure est à la défense du pouvoir d'achat des Français. Le chef de l'État sait que remettre cette question sur la table maintenant jouerait en sa défaveur, alors que les législatives approchent et que la gauche part unie dans cette bataille. Un dossier explosif qui pousse le président à ne pas trop se mouiller à ce stade. La mission a été confiée à Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail qui a succédé à Elisabeth Borne à ce poste. C'est cet ex-membre du Parti Socialiste qui entamera les discussions avec les partenaires sociaux. Mais si Emmanuel Macron prend de la distance, le calendrier envisagé pour la réforme est lui inchangé. Examen du texte au Parlement à l'automne et entrée en vigueur début 2023, dans 8 mois.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Mesure forte pour le pouvoir d'achat des retraités. Le gouvernement compte saisir le Sénat et l'Assemblée pour indexer les pensions sur l'inflation dès le versement du 9 août. Ce qui signifierait pour une retraite de 1200 euros un gain de 45 euros, selon Olivier Dussopt, le ministre du Travail hier. Julien, est-ce que vous savez combien de temps on met en voiture pour faire Paris-Berlin?
Oula, c'est loin Berlin. C'est 7-8 heures?
9h30 pour environ 1000 km. Alors aujourd'hui, pour se rendre dans la capitale allemande, une solution, l'avion. L'année prochaine, le TGV.
Oui, c'est le projet du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, venu célébrer hier à Strasbourg les 15 ans de la coopération franco-allemande sur la grande vitesse.
Alors on ne reliera pas Paris à Berlin en un claquement de doigts, prévoyez tout de même 7 heures, mais le patron de la SNCF en est sûr. Le train a encore de beaux jours devant lui, Mélina Fachin.
Après Munich, Stuttgart ou encore Francfort ces 15 dernières années, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, veut désormais aller plus loin, jusqu'à l'autre bout de l'Allemagne, indirect Paris-Berlin.
Je suis convaincu que les jeunes vont y aller tout de suite et les moins jeunes, petit à petit, viennent parce que cette prise de conscience écologique, elle est en train de rentrer partout dans toutes les familles françaises. Les gens n'ont plus peur de faire 4 heures, 5 heures, 6 heures de train pour des régions de, j'allais dire, citoyennes, de prise de conscience de l'impact sur la planète, de nos choix en matière de déplacement.
Et toujours avec cette conviction que les longs trajets n'effraient plus les voyageurs, Jean-Pierre Farandou mise aussi beaucoup sur les trains de nuit qui renaissent peu à peu et qui vont encore se développer.
Oui, au niveau européen, on va avoir à nouveau le retour des trains de nuit, qui est un moyen très agréable de voyager en dormant, de franchir 1000 km, 1500 km. Vous partez en fin de soirée d'une capitale et vous arrivez le lendemain matin pour prendre votre petit déjeuner à destination. Je pense que c'est un mode très agréable de voyage que les Français sont en train de redécouvrir.
Un Paris-Vienne a d'ailleurs été inauguré il y a 6 mois. Et là encore, en plus du TGV, une ligne de nuit vers Berlin devrait voir le jour fin 2023. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Un trajet plus rapide qu'en voiture, on le disait, hein, 7 heures au lieu de 9h30, mais aussi plus écologique. Le train peut émettre jusqu'à 50 fois moins de CO2 que la voiture.
5h05 sur Europe 1. Le rafting et les sports d'eau vive menacés en France.
Oui, dans le département de l'Aude, par exemple, leur pratique dépend de lâchers d'eau réalisés depuis des barrages EDF. Sauf que cette année, il n'y en aura pas, du moins pas au printemps. En cause, la sécheresse record, mais aussi la nécessité de faire tourner à plein régime les centrales hydroélectriques. Le reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
On va vous donner la combinaison, les chaussons, le gilet et le casque, d'accord ?
Alain s'apprête à sortir en canoë sur l'Aude avec un petit groupe de lycéens. Ils avaient pourtant réservé pour du rafting, mais il n'y a pas assez de débit.
On a trouvé une activité un petit peu de remplacement pour aujourd'hui. On bricole. On essaie tant bien que mal de sauver ce qu'on peut sauver de notre début de saison.
Dimanche dernier, c'est Sylvain qui devait mener un comité d'entreprise. Il a dû faire demi-tour.
Il était prévu un niveau correct pour la pratique du rafting. J'ai accueilli mes gens. On arrive au départ, il n'y avait pas d'eau. Très difficile à expliquer aux clients.
C'est fin avril que la préfecture a annoncé à la quinzaine de professionnels de l'eau vive du département, dont Didier Astre, qu'il ne n'auront plus aucun lâcher d'eau ce printemps, contre une quinzaine habituellement. Des lâchers de 6 heures consécutives, essentiels pour la pratique de leur sport. Une conséquence de la sécheresse, mais surtout de la guerre.
La raison invoquée principale étant le conflit ukrainien qui mobiliserait l'ensemble des ressources hydroélectriques. On était quand même excessivement content de pouvoir exercer de façon normale enfin cette année. Là, à court terme, c'est catastrophique.
Eux demandent à se remettre autour de la table pour négocier des économies d'eau. La préfecture assure que des lâchers quotidiens seront prévus en juillet-août, comme chaque année, pour la haute saison touristique. Dans la Haute-Vallée de l'Aude, Benjamin Péter, Europe 1.
On termine ce journal par un mot de Roland Garros. Et vous le savez, Europe 1 est la radio officielle du tournoi. De nouveaux Français accèdent au second tour.
Ils sont deux chez les messieurs. Gilles Simon qui a battu cette nuit l'Espagnol Pablo Carreño Busta en 5-7. Victoire sur le fil également pour Hugo Gaston qui est venu à bout d'Alex de Minaur. Chez les femmes, elles sont aussi deux à se qualifier pour la suite. Caroline Garcia qui a battu 6-3, 6-4 Taylor Townsend. 6-2, 6-0 pour Alizé Cornet face à Misaki Deuil.
Et puis à suivre absolument aujourd'hui le début du second tour avec notamment cette affiche Corentin Moutet, Rafa Nadal.
Et la séquence à retenir aussi, hein. C'est l'immense émotion pour l'ultime match de la carrière de Joe Wilfried Tsonga. Le jeune retraité de 37 ans a fait ses adieux porte d'Auteuil hier, on en reparle dans le journal de 5h30.
Par la grande porte titre ce matin, l'équipe oui. Assez malicieusement. Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
5h08 sur Europe 1. Ce sont les courses à présent et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche et mon pari gagnant sera le 704 Flower Étoilé. Irrésistible depuis le début de l'année, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e en 6 tentatives, cette jument fiable et sur laquelle on peut visiblement compter reste sur une facile victoire. Le 13 mai sur l'hippodrome de La Capelle, un profil de piste similaire à celle du Croisé-la-Roche. Et la façon avec laquelle elle s'est imposée ce jour-là me permet de vous affirmer qu'elle ne devrait avoir aucune difficulté à réaliser le doublé. Alors notez bien, pour cet après-midi au Croisé-la-Roche, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 4, Flower Étoilé.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger et à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Passe au pressing, les trois histoires de la revue de presse et avec nous pour vous les raconter ces histoires, Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour.
Alors on commence avec vos journaux et des doutes en une de l'opinion. Déjà des doutes sur la réforme des retraites, titre Le Quotidien, alors que le gouvernement se fait de plus en plus prudent. On en parlait un instant sur un recul de l'âge légal et esquisse des issues de secours. Sachez que même les 64 ans ne semblent plus qu'une hypothèse pour Le Quotidien, l'opinion. Air France KLM, un sauvetage hors norme, peut-on lire en une des échos. Sauvetage du transporteur aérien qui aura mobilisé au total tout de même 15 milliards d'euros. Mais paradoxalement, Air France KLM sort renforcé de la crise, note le journal économique. Et puis on termine avec Le Parisien, aujourd'hui en France, qui consacre sa une au jubilé de la reine Elisabeth II. Londres dans tous ses états, titre Le Quotidien, alors que le Royaume-Uni s'apprête à célébrer avec ferveur les 70 ans de règne de sa gracieuse majesté. Omblin, majesté, qu'avez-vous choisi ?
C'est trop d'honneur, Sire. Les inconditionnels de l'émission Top Chef savent pertinemment que ce sont les quarts de finale qui vont se jouer ce soir sur M6. Alors lorsque vous regardez tous ces cuisiniers talentueux se rendre dans le garde-manger, chercher de quoi confectionner un plat et le plus inventif possible, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui allait advenir de toute cette nourriture laissée derrière eux ?
Non, on sait... la mange, j'espère. Ouais.
Comment ?
Il la mange, j'espère.
Écoutez la suite. On s'étonne parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nourriture, une abondance de produits frais et ils n'utilisent pas tout. Et bien en novembre dernier, au moment du tournage du concours de cuisine, le journal Le Parisien aujourd'hui en France a suivi les bénévoles de la Croix-Rouge qui, pour cette 13e saison de Top Chef, ont récupéré 5,5 tonnes de nourriture. C'est moins qu'en 2017 où on frôlait les 7,7 tonnes. Tony, préposé au stock, nous apprend que la production essaye depuis quelques années de mieux cibler les produits pour éviter le gaspillage. Et c'est ce même Tony qui, quelques heures avant le tournage, inspecte les légumes et élimine ceux qui ne passeront pas à la caméra, comme une carotte molle ou un céleri avec des feuilles jaunies. Mis de côté, ils sont donc récupérés par la Croix-Rouge. Direction le centre de Sevran, en région parisienne. Chaque semaine, les bénévoles découvrent les trésors du jour. Et ce mercredi-là, il y a toutes sortes de poires, mais aussi de la rhubarbe, des champignons, des navets, des choux violets, cette carotte molle qui a été donc mise de côté. À 19h, la maraude est sur le départ. Sa camionnette blanche siglée d'une Croix-Rouge chargée de nourriture. C'est parti pour faire le tour du département de la Seine-Saint-Denis. Les bénévoles croisent Virginia qui choisira des oranges, Patricia, femme de chambre à la retraite, Ramek, un ingénieur de 52 ans, venu d'Inde et lui préférerait un peu de sous hein, plutôt pour se payer une chambre. Top Chef
connais pas, dit Joël, un papy boiteux, écrit le journal. Lui, il préfère un café, tout comme Bruno qui cherche un repas chaud. Certaines denrées ne peuvent pas être proposées par la maraude quand il n'y a pas de traçabilité de fraîcheur, comme des fruits de mer, hein, par exemple. Dans ce cas-là, ils sont récupérés par des bénévoles, dont certains sont aussi dans le besoin. La nourriture non utilisée par les cuisiniers de l'émission Top Chef distribuée au SDF, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci. Omeline.
Avec plaisir.
Martin, à vous.
Oui, si je vous fais écouter ça, vous me dites. Ha.
Junior.
Junior.
C'est comme ça que l'appelle son père. Parce qu'Indiana, c'est le nom du chien.
Vous connaissez trop bien pour moi. Je suis désolé.
Indiana Jones.
Évidemment, ouais, l'archéologue joué par Harrison Ford. Son fedora, hein, ce chapeau de cuir, son fouet et ses cascades inimitables. Mais entre la fiction, un cinquième opus de la série est d'ailleurs annoncé pour l'année prochaine, et la réalité, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ce matin. Je vous emmène en Angleterre à la rencontre de George Ridgeway, 31 ans. George, qu'on pourrait qualifier de plus grand fan d'Indiana Jones. D'ailleurs, lui aussi est chasseur de trésors à ses heures perdues. Et il a découvert 700 pièces de monnaie datant de plus de 2000 ans. Un butin qui vaudrait aujourd'hui un plus de 75 000 euros, selon les médias britanniques.
C'est un sacré butin. Où est-ce qu'il a trouvé ce trésor ?
Alors, pas dans l'Arche perdue ou dans un temple maudit, mais en Angleterre, à quelques kilomètres de chez lui. C'était en 2019. Pour assouvir son rêve de trouvailles, George retrace les anciennes routes romaines sur Google Earth et il les emprunte jusqu'au jour où il tombe sur un drôle de marquage. Il fouille le champ et tombe sur deux broches romaines et un denier Jules César datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Parassasien, il laboure littéralement le champ jusqu'à découvrir 748 pièces d'or.
Ah, c'est énorme.
Son père, qui est venu l'aider, raconte même qu'il dormait sur place pour protéger son site de fouille. Alors, son fabuleux trésor a été remis aux experts du British Museum de Londres, qui n'en reviennent toujours pas. C'est le plus grand trésor de métaux précieux jamais trouvé en Grande-Bretagne, a même déclaré la conservatrice du musée à la BBC. Le trésor qui devrait sûrement finir dans les collections du musée. Mais tout n'est pas perdu pour George, qui devrait récupérer la moitié de la valeur de sa trouvaille, le reste étant destiné au propriétaire du terrain sur lequel il l'a déterré.
Comme
c'est,
en France.
C'est d'ailleurs la même règle en France, exactement, rappelle le site de West France. Fan des aventures d'Indiana Jones, il découvre un vrai trésor archéologique. C'est donc à lire dans l'édition du soir de West France.
Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Monde qui reprend une enquête édifiante du New York Times. Enquête qui retrace l'histoire de la dette des Haïtiens. Les Haïtiens dont les ancêtres, le 1er janvier 1804, proclamaient leur indépendance à la suite d'une révolte d'esclaves contre les colons français. Deux siècles plus tard, Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Cette situation, on la met souvent sous le compte d'un état défaillant et d'une corruption endémique, deux facteurs bien réels, mais qui n'expliquent pas tout, loin de là. En réalité, la misère persistante qu'endure Haïti est en très grande partie le fait d'interventions extérieures. C'est la conclusion de cette enquête menée pendant 13 mois par les journalistes du New York Times. Tout commence en 1825, 21 ans donc après son indépendance, Haïti voit un navire français suivi d'une flottille de guerre jeter l'ancre au large de Port-au-Prince, la capitale. Il s'agit d'une expédition menée par un émissaire du roi Charles X qui vient lancer un ultimatum. La France exige des réparations pour la perte d'Haïti. En clair, il faut payer, faute de quoi la guerre sera déclarée. Isolé, sans réel allié, le petit pays n'a guère de choix et il paiera la somme exigée, 150 millions de francs à verser en 5 fois, montant colossal qui dépasse largement les maigres moyens d'Haïti, qui en plus se voit forcé d'emprunter auprès de banques françaises pour régler son premier paiement. À la somme initiale s'ajoute donc des intérêts, c'est ce que les historiens appellent la double dette. Le New York Times évalue le montant total des sommes versées à 525 millions d'euros en valeur actualisée, autant d'argent qui pendant des décennies a cruellement manqué et n'a pas été investi pour garantir la prospérité de la nation haïtienne. Résultat, les paiements à la France ont coûté à Haïti entre 20 et 108 milliards d'euros en perte de croissance économique. C'est la conclusion du journal américain qui évoque une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle. Nous voilà à présent en 1880, 55 ans donc après le début des paiements à la France, qui décide à cette époque de changer de tactique. La Banque nationale d'Haïti est créée, mais elle n'a d'haïtien que le nom puisqu'elle est contrôlée par un conseil d'administration basé à Paris et qu'elle a été fondée par une banque française, le Crédit Industriel et Commercial, le CIC, l'ancêtre de celui qui est aujourd'hui construit dans un monde qui bouge. Donc après avoir imposé une dette colossale et exigé des paiements sonnants et trébuchants, Paris vise désormais plus d'efficacité et se sert directement dans les caisses de son ancienne colonie. Car en contrôlant le trésor public d'Haïti, le CIC impose au gouvernement local des commissions à chaque dépôt ou retrait de fonds. Et comme les commissions en question sont, vous vous en doutez, exorbitantes, eh bien la Banque française accable l'État haïtien de prêts successifs. En 1910, De nouveaux actionnaires s'emparent de la Banque nationale d'Haïti, des actionnaires encore une fois exclusivement étrangers puisqu'ils sont français, allemands et américains. Et encore une fois, ils accordent un nouveau prêt au gouvernement haïtien à des conditions draconiennes, tellement draconiennes qu'un an plus tard, sur 3 dollars perçus par l'impôt sur le café, soit la principale source de revenus du pays, 2,53 dollars, soit 83% de la somme, servait à rembourser les montants empruntés à des investisseurs français. Autant d'argent qui n'a donc pas été investi en Haïti, où en 2022, plus de deux siècles donc après l'indépendance, le PIB par habitant est de 1200 dollars, 32 fois moins qu'en France. Comment la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires, c'est à lire sur le site du Monde.
Merci beaucoup, Julien, et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h18 sur Europe 1, soyez tous les bienvenus. Les principaux titres, Alban Le Prince.
Nouvelle nuit de terreur aux États-Unis après une fusillade dans une école du Texas. Au moins 22 morts, dont 19 enfants âgés d'une dizaine d'années. Joe Biden, le président américain, a pris la parole depuis la Maison-Blanche. Il plaide pour une meilleure régulation des armes. Retour en France, c'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par le préfet de l'Isère, rend sa décision sur l'autorisation du burkini dans les piscines municipale. C'est un non. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique retoque le projet de reconversion de l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il devait devenir vice-président exécutif de l'armateur CMA-CGM, un poste incompatible avec les fonctions gouvernementales qu'il a exercées. Et puis 5 cas de variole du singe en France selon Santé publique France. Hier, la Haute Autorité de Santé a recommandé la vaccination des cas contacts. Elle préconise une injection entre 4 et 14 jours après le contact avec deux doses.
Bon réveil à l'écoute d'Europe 1, il est 5h19 et c'est la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes à présent. Les initiatives en France nous emmènent ce matin à Rennes.
Bonjour Cyril Pradel.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur d'Eliot, une start-up qui a créé une solution d'optimisation de la collecte des déchets. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, notre mission chez Eliot, c'est d'aider les collectivités et les entreprises à mieux gérer leurs déchets. Et pour cela, on a développé une solution qui leur permet effectivement d'optimiser leur tournée en s'appuyant sur un capteur qu'on a développé et conçu en France, qui va mesurer très précisément le niveau de remplissage des contenants à déchets pour le transmettre ensuite sur une plateforme web de gestion.
Les contenants à déchets dont vous nous parlez, c'est quoi ? Ce sont les conteneurs de verre, d'emballage ou voire de compost ?
Eh ben, c'est tout cela en même temps. En réalité, notre technologie nous permet de nous adapter sur tout type de contenant et tout flux de déchets, que ce soit du verre, de l'emballage, de l'ordure ménagère. On a même fait plusieurs installations avec des mégots de cigarettes, avec du tissu, des CD, des DVD. Enfin, bref, la versatilité de notre capteur nous permet vraiment de nous installer sur tout type de contenant, des points d'apport volontaire, des corbeilles de vide, des composteurs. Ouais. Tout ce qui peut se remplir et qui peut se vider, nous, on est capable de pouvoir le suivre à distance.
Donc ça permet de connaître en temps réel le taux de remplissage et du coup d'adapter les tournées de collecte qui vont avec ?
C'est exactement ça. Ça, c'est l'idée. C'est vraiment de se dire on va essayer de se déplacer au bon endroit et au bon moment. Et notre solution permet ça. Donc effectivement, on va éviter les kilomètres dépensés pour rien. Et surtout, on va aider aussi le chauffeur à éviter de faire des manœuvres parfois inutiles, même parfois dangereuses, justement en lui disant là, ça vaut le coup de t'arrêter. Là, tu peux passer ton chemin. Ou alors, au contraire, peut-être étendre un petit peu ta tournée pour aller capter des volumes que tu n'aurais peut-être pas capté si tu n'avais pas eu de sonde dans ton camion.
Ça implique que les véhicules de ramassage ont accès en direct à ces informations.
Oui, exactement. Les camions de ramassage sont équipés d'informatique embarquée qui leur permet vraiment d'avoir une tournée GPS, un type qu'on peut connaître dans nos véhicules personnels, et qui va leur donner vraiment la direction pour aller se déplacer sur les points à collecter.
Comment communiquent ces capteurs ? Ils ont des cartes SIM ?
Alors non, on est sur des technologies bas débit, donc on est sur des réseaux qu'on appelle LoRaWAN ou Sigfox, qui sont des réseaux, je dirais, 0G en comparaison de la 5G qui a beaucoup de débit. Là, sur la 0G, on consomme très très peu d'énergie. C'était aussi une vraie volonté, nous, dans l'éco-conception de notre solution, de consommer le minimum d'énergie pour en tirer le maximum de valeur. Donc aujourd'hui, on utilise ces réseaux et demain, on utilisera ensuite les futurs réseaux qui sortiront comme le LTE-M et NB-IoT.
Il y a vraiment de l'argent à économiser en adaptant les tournées de collecte de déchets ?
Bah écoutez, aujourd'hui, c'est énorme, en fait, puisqu'aujourd'hui, les budgets, en tout cas dans les collectivités pour la collecte des déchets, bien souvent, c'est le budget principal de coût, le poste de coût principal. Et donc, effectivement, on se rend compte avec l'augmentation du coût des trajets à cause du gasoil, à cause aussi du coût humain, entre guillemets, bah, voilà, tout de suite, il faut pouvoir optimiser ces coûts-là parce que c'est finalement des coûts qui sont impactés directement sur les usagers, au final. Donc, plus on va aider les collectivités à améliorer ces trajets, plus, finalement, on va peut-être aussi alléger un peu notre propre feuille d'impôt.
Mais vous l'avez quantifié, ce gain ? Pour les collectivités ?
Alors oui, on a plusieurs études qui sont en cours sur le sujet. On estime aujourd'hui que grâce à notre solution, les collectivités économisent entre 20 et 30% sur leur budget annuel de collecte des déchets. Donc c'est grâce justement à cette optimisation détournée et aussi à la façon dont on peut aller collecter des volumes supplémentaires.
Oui, c'est pas neutre 20 à 30% d'économie, surtout si derrière elles sont répercutées sur la taxe qui va avec. Vous avez dit que votre client principal, ce sont, on l'a bien compris, les collectivités. Est-ce qu'il y a également des entreprises ?
Oui, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, la législation notamment impose de plus en plus de règles aussi aux entreprises, notamment sur le tri des 7 flux de déchets. Qui dit 7 flux de déchets, c'est forcément 7 contenants qui se remplissent à des vitesses différentes. Donc aujourd'hui, oui, on aide aussi les entreprises à optimiser leurs propres coûts de collecte vis-à-vis des acteurs privés qu'on connaît tous, hein, qu'on voit dans la rue avec leur camion poubelle. Donc on les aide eux aussi. On prend un exemple, par exemple, avec un pétrolier, un grand nom français qui a des aires d'autoroute en France. Bah, grâce à notre solution, on les a aidés vraiment à diviser par deux leur facture mensuelle de collecte des déchets.
Que faites-vous des données que vous collectez ? Parce que j'imagine qu'on peut en apprendre beaucoup sur une population en analysant ses déchets, ses habitudes ?
Alors effectivement, ça c'est un vrai sujet important pour nous, c'est la gouvernance de cette donnée. Aujourd'hui, quand on travaille avec les collectivités, cette donnée leur appartient, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'exploiter. Nous, on les aide aussi à exploiter, en tirer des enseignements, en réalisant des rapports ou des études. Mais effectivement, comme vous dites, plus on va apprendre comment les gens jettent leurs déchets, comment demain aussi on va permettre de réduire cette production de déchets. Donc au-delà du simple fait d'optimiser les tournées, effectivement, notre solution permet aussi de mieux comprendre les façons dont jettent les usagers pour derrière aussi mettre en place des plans de communication, par exemple pour la réduction.
Ça coûte combien d'installer un capteur et le service qui va avec ?
En termes de prix, c'est très simple. On vend la sonde aujourd'hui 149 euros et ensuite on fait souscrire un abonnement à notre client à 5 euros par mois par sonde qui va couvrir donc les frais de connectivité et l'accès à la plateforme et à l'ensemble des fonctionnalités, notamment les rapports, les alertes et l'accès aussi aux données via des API.
Et ce capteur, il est fabriqué où ?
Eh bien, on est très fiers, il est fabriqué à quelques minutes de nos propres bureaux qui sont situés à Rennes. Donc aujourd'hui, on est 100% conçu et fabriqué en France.
D'accord. Comment vous est venue cette idée de créer un capteur pour les contenants à déchets ?
Bah, je pense que comme tout le monde, je suis déjà passé à côté de poubelles qui débordaient et là je me suis posé la question, je me dis bah, comment ça se fait, c'est pas normal. Alors effectivement il y a des effets parfois de saisonnalité qui font que les collecteurs sont pas forcément toujours là au bon endroit et au bon moment. Et donc c'est un peu de ce constat qu'on s'est dit avec Elliot, bah, voilà, ça c'est notre mission, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de déchets sauvages, éviter que les déchets tombent à la mer par exemple notamment. Et donc c'est grâce à cette sonde qu'on met dans les contenants, bah, voilà, qu'on aide un peu les collecteurs à aller vraiment collecter au bon moment.
Et vous avez prévu d'autres applications à cette sonde ? Vous lui voyez d'autres formes d'utilisation ?
Alors oui, on peut imaginer beaucoup de choses parce qu'au final, on est capable de mesurer toute boîte qui se remplit ou qui se vide. Et on a par exemple certains de nos clients qui ont pris notre sonde pour utiliser dans le cas du retail, par exemple, dans la logistique aussi ou dans l'agriculture. Donc voilà, les cas d'usage de cette sonde, on commence de plus en plus à les découvrir et on a hâte de voir ce qui va se passer à l'avenir avec ça.
Merci beaucoup Cyril Pradel de nous avoir présenté Elliot et son capteur qui permet d'optimiser la gestion des déchets. On vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt sur Europe 1.
Merci, à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Si ce n'est que je vous souhaite un excellent réveil. Nous sommes le mercredi 25 mai et dans un instant, le journal de 5h30 de Lénaïque Monnier. Et puis cet avis de recherche, on manque de techniciens son, lumière et scène dans les coulisses des concerts.
Après les professionnels de la restauration, ce sont les tourneurs qui manquent de bras. Pour le bon fonctionnement des tournées et des festivals, c'est la pénurie des rodises. Ces machinistes qui installent et démontent les scènes lors des concerts, voilà une autre conséquence du Covid. Beaucoup d'intermittents ont changé de métier. On en parle dans un quart d'heure avec le gérant d'une société spécialisée dans l'événementiel.
Et puis juste après les sorties ciné de ce mercredi.
Avec Laurie Choleva au programme Top Gun Maverick. Évidemment, film européen, le retour de Pete Mitchell et de son avion de chasse. Et puis un feel-good movie français, Homme au bord de la crise de nerfs. Rendez-vous à 5h50.
Mais avant la météo... Rebonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Moins de nuages ?
Moins de nuages, ciel plus clair, on voit quelques étoiles ce matin, ça fait du bien, c'est un peu mieux. Et même dans la journée, nous aurons un petit peu plus de luminosité, on en a besoin, vive la vitamine D. Alors effectivement, sur les trois quarts des régions, ça va mieux, sauf sur la Bretagne et le Cotentin, où là on a quelques nuages ce matin avec des toutes petites averses, et surtout dans l'extrême sud. Sur les Pyrénées et jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors là, on a un temps très couvert toute la journée, hein, des nuages très épais qui vont apporter des averses sur les Pyrénées, des averses orageuses et puis des orages aussi qui vont éclater sur les Alpes-Maritimes. Alors, ça va concerner l'arrière-pays niçois. Les orages ne vont pas arriver jusque sur la Croisette. Normalement, les stars ne devraient pas être sous la pluie cet après-midi.
Nous voilà rassurés.
Partout ailleurs, on a un temps quand même qui alterne entre nuages, éclaircies et c'est plutôt agréable. Les températures, alors là attention, couvrez-vous ce matin. Hein. On a une fraîcheur matinale qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. 2 degrés à Charleville-Mézières, 5 à 3, ça a bien baissé. 7 à Rodez, 9 à Paris, 14 à Lyon et 18 à Nice. Et cet après-midi, c'est assez stationnaire avec 16 degrés à Cherbourg, 21 à Paris et Bordeaux comme hier, 25 à Nice, 28 à Montpellier.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1, il est bientôt 5h30.
Europe 1.
Et à la une, cette question, quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes ? Émotion et colère de Joe Biden après cette nuit d'horreur dans une école du Texas, 19 enfants abattus par un tireur. Les passoires thermiques sont-elles bien évaluées ? 60 millions de consommateurs à enquêter, de nombreux diagnostics DPE sont erronés et ça peut tout changer au moment d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Et puis nous entendrons l'émotion de Joe Wilfried Tsonga, ovationné hier à Roland-Garros pour l'ultime match de sa carrière.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté ce matin par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le scénario de l'horreur se répète, même pas deux semaines après la tuerie de Buffalo. Autre drame quasi similaire hier, au moins 19 enfants, des petits de moins de 10 ans et deux adultes abattus dans une école primaire par un jeune homme de 18 ans, lui-même décédé. Les précisions de Greg Abbott, qui est le gouverneur du Texas.
Le tireur était Salvador Romas, un jeune homme de 18 ans qui habitait à Uvalde. On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Robb à Uvalde avec une arme de poing et il se peut qu'il ait également eu un fusil. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée. Monsieur Romas, le tireur, est lui-même décédé et on pense que ce sont les officiers qui sont intervenus qui l'ont abattu.
Gouverneur du Texas, Greg Abbott.
Cette énième tuerie relance le débat sur la circulation des armes à feu dans le pays.
Oui, vous le disiez, hein, quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes ? Voilà ce qu'a demandé Joe Biden. Aux États-Unis, les fusillades sont un fléau récurrent. Les gouvernements successifs n'arrivent pas à endiguer le problème. De nombreux Américains sont très attachés à leurs armes. 30% des adultes ont au moins une arme à feu.
Sachant qu'il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants aux États-Unis. Autre chiffre très parlant, c'est la 212e fusillade perpétrée depuis le début de l'année.
Oui, d'où cette intervention de Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Il estime qu'il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, pour chaque citoyen. Le président américain a dénoncé ce qui empêchait ou repoussait ou bloquait des lois sur les armes à feu. Depuis le Sénat, le démocrate Chris Murphy a également pris la parole. Dans son état du Connecticut, lui-même avait été confronté à une tuerie de masse il y a 10 ans.
This only happens in this country. And nowhere else.
Cela n'arrive que dans ce pays et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, les enfants vont à l'école en se disant qu'aujourd'hui, ils vont peut-être se faire tirer dessus. Et c'est un choix. C'est notre choix de laisser cela continuer. Que faisons-nous ? Je suis ici au Sénat pour vous supplier, littéralement pour me mettre à genoux et supplier mes collègues, travailler avec nous pour faire voter des lois, pour rendre ces drames moins probables.
Un propos recueilli par Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. À cette heure, le mobile n'est toujours pas connu.
On revient en France avec les élections législatives qui se profilent. Une campagne qui ne se fera pas sur la réforme des retraites.
C'était l'une des plus importantes du programme du candidat Macron. Eh bien, la réforme des retraites est mise de côté pour le moment. Et d'ailleurs, elle ne devrait même pas revenir sur le devant de la scène d'ici l'automne.
Il sera question de sécurité aujourd'hui. Gérald Darmanin reçoit les préfets pour leur donner leur feuille de route.
Au menu, immigration illégale, violences intrafamiliales et même Jeux Olympiques. William Molinier, quelles sont les priorités qui seront annoncées aux représentants de l'État dans les départements ce matin ?
Eh bien, tout d'abord, faire baisser la délinquance en s'appuyant sur deux leviers, la lutte contre les violences intrafamiliales et contre les trafics de stupéfiants. Un point de deal sur cinq a déjà été fermé, selon les chiffres de la place Beauvau, mais il va falloir les consolider et faire plus, entrevoit un cadre du ministère de l'Intérieur. Avant-hier, le premier flic de France a reçu les patrons de la police et de la gendarmerie, 50 minutes d'échange. Selon nos informations, il a insisté sur la nécessité de réussite des Jeux Olympiques de 2024 et de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. Il souhaite, dans ce cadre-là, adapter très prochainement les moyens pour lutter contre les cybermenaces. Gérald Darmanin attend aussi des préfets qu'ils s'engagent dans un combat contre l'immigration clandestine. Depuis les trois premiers mois de l'année, les éloignements forcés sont en hausse de 20%. Il faut aller encore plus loin, reconnaît un proche du ministre. Enfin, Gérald Darmanin compte inscrire le dossier Corse à son agenda puisqu'il recevra les élus de l'île de Beauté après les élections législatives.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Tendez bien l'oreille à présent, car vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés, que vous soyez locataire ou propriétaire, vous avez forcément entendu parler des passoires thermiques. Vivez-vous dans l'une d'entre elles?
Eh bien, le diagnostic DPE était supposé vous aider à le savoir et surtout à y remédier, sauf qu'il y a des erreurs sur la date de construction, sur le nombre de mètres carrés, sur le chauffage mal évalué. Le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté. Il pointe, Maud Descamps, des erreurs qui sont très nombreuses.
Oui, une maison dont la surface passe de 138 à 162 mètres carrés en fonction du professionnel qui réalise le diagnostic de performance énergétique ou encore des portes et des fenêtres non prises en compte pour ce même DPE. Voici le type d'erreurs nombreuses que l'association 60 millions de consommateurs a relevées. Des erreurs qui ont un impact direct sur le classement énergétique du logement et donc sur sa valeur, explique la juriste de l'association Virginie Potiron.
De nouvelles contraintes vont entrer en vigueur dans les mois et années à venir, notamment des fin août 2022 avec l'impossibilité d'augmenter les loyers des logements classés F et G. De même, à partir de la fin septembre 2022, on devra réaliser un audit lors de la vente de ces mêmes logements classés F ou G. Donc on peut voir que le classement a quand même un impact très important. Et ce d'autant plus qu'à partir de 2023 jusqu'en 2028, il y aura des interdictions de louer parce que les logements les plus énergivores seront considérés comme non décents.
L'association réclame donc une meilleure formation des experts qui réalisent ces diagnostics, trop souvent à la va-vite. Ils sont encore nombreux à ne pas avoir été formés aux nouvelles normes du DPE.
Les précisions de Maud Descamps sur ce sujet ô combien sensible qui nous concerne tous, vous le disiez Julien.
Attention, si vous devez prendre la route, la journée est classée rouge au niveau national.
Oui, c'est le pont de l'Ascension. En Ile-de-France, le trafic sera très dense en direction de l'A10 et de l'A6 dès la fin de la matinée. Ce sera la même couleur d'ailleurs demain, toujours dans le sens des départs.
On en vient à l'émotion sur le central de Roland-Garros hier quand Joe Wilfried Tsonga a fait ses adieux.
Il était en larmes au moment de sa défaite, synonyme pour lui de départ à la retraite. Tous ses copains mousquetaires étaient là. À sa famille, ses entraîneurs sur le court pour lui rendre un dernier hommage. Avec un tout petit peu de recul, il est revenu sur ce moment très fort.
Je savais qu'il allait certainement se passer quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne savais surtout pas qui. C'était assez touchant de voir mes premiers entraîneurs venir sur le court. Même mes parents qui sont quand même relativement discrets. Même les gars, je savais que Gaël allait venir, il m'avait dit. Il n'y avait pas su tenir salon. Mais j'avoue que je n'avais pas vraiment envie d'y réfléchir parce que j'avais envie de vivre le moment tout simplement. Et ils sont tous très contents parce que j'ai réussi à pleurer. Et non, c'est un moment qui va rester un peu gravé. Mais c'est vrai que c'est passé un peu vite. Quand on est au cœur comme ça de l'attention, c'est difficile finalement de vivre le moment présent, quoi. On est un peu, j'avais les yeux qui partaient un peu partout, je ne savais pas où me mettre. Mais c'est clair que quand j'aurai les images, quand je vais re-regarder ça, je pense que ça va beaucoup me toucher aussi.
Et puis l'ovation évidemment sur ce court central hier, propos recueillis par Cédric Chasseur. En attendant, côté court, Gilles Simon, lui futur retraité également, joue les prolongations. Il est qualifié pour le deuxième tour, tout comme Corentin Moutet et Hugo Gaston. Vous ne ratez rien de Roland Garros évidemment avec Europe 1 Radio Officielle.
Absolument, merci beaucoup Lénaïque Monnier pour ce journal. On passe aux courses à présent. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction les Hauts-de-France, l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour ce quintet qui va se courir dans la cinquième étape du Grand National du Trot. Et parmi les 16 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 12, Anna Desmolle, la cadette du peloton qui, à peine âgée de 5 ans, n'hésite pas à défier ses aînés avec de solides arguments. Après avoir été ménagée l'hiver dernier, elle est visiblement revenue à son meilleur niveau et doit pouvoir, sans incident de parcours, s'adjuger. juger les quelques 40 500 euros offerts au vainqueur. On lui opposera les numéros 11, Django du Bocage, actuellement deuxième au classement de ce Tour de France des trotteurs, 5, Pharrell Seven, irréprochable et présenté par l'incontournable Jean-Michel Bazire, et 13, Cyriel Datom, entraîné en Belgique, où en dépit de ses 10 ans, il continue à aligner les bonnes performances. Enfin, les numéros 10, Fréja Dupont, 6, El Greco Bello, 15, Earl Simon et 1, Fragonard Dello compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 11, 5, 13, 10, 6, 15 et 1.
Merci Thierry Léger et retrouvez tous ces pronostics dès maintenant sur Europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Voici maintenant le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et toute cette semaine se tient à Bonn, en Allemagne, l'une des plus grandes conférences au monde sur l'observation de la Terre pour prendre le pouls de notre planète depuis l'espace. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Laure, vous revenez aujourd'hui sur un événement qui nous a permis de mieux connaître l'espace, l'envoi du tout premier télescope spatial en 1990, le fameux Hubble, placé en orbite à 600 km d'altitude de la Terre. Il a révolutionné, on peut le dire, les découvertes en astronomie.
Oui, des étoiles, des galaxies, des planètes, des nébuleuses. Le télescope Hubble a réalisé 1,5 million d'observations. Il est lancé au mois d'avril 90 et aura coûté 1 milliard de dollars. Récit sur Europe 1 du journaliste Bernard Chabert à quelques minutes du décollage.
L'argent, oui, mais enfin bon, finalement, l'argent ne vaut pas grand-chose, je crois, à côté de la connaissance de l'univers. C'est sûr qu'il est cher, cet engin-là. Mais y a tellement d'intelligence investie dans cette machine et surtout tellement de possibilités d'apprendre des choses. Les astronautes ne sont plus les vedettes. La vedette aujourd'hui, c'est ce télescope de Hubble.
20 années de travail s'envolent dans l'espace et lorsque 2 mois plus tard, les premières photos sont prises par le télescope, stupeur, les images sont floues parce que le miroir a une mauvaise courbure. Le télescope est myope en quelque sorte. Des astronautes sont allés lui poser des lunettes 3 ans plus tard, en 93. Et l'image était nette. Ils sont allés dans l'espace réparer Hubble, raconte alors le journaliste scientifique Albert Ducrot.
Hubble avait été conçu de manière à avoir une certaine maintenance et à avoir une intervention humaine.
Lors de cette mission, les astronautes ont aussi remplacé quelques instruments du télescope pour le rendre plus performant.
Alors, lors ce télescope Hubble a permis en particulier d'observer une collision de galaxies, c'était en 1997.
Oui, à 48 millions d'années-lumière. La collision a été photographiée par Hubble, donnant l'impression d'un feu d'artifice. Des galaxies, c'est très poreux. Et les deux galaxies donnent ensuite naissance à des milliers d'étoiles nouvelles, explique alors l'astrophysicien Hubert Reeves.
Si cela nous arrivait, on prévoit d'ailleurs que dans 5 milliards d'années environ, la galaxie d'Andromède, qui est une de nos plus proches voisines, qui se dirige vers nous très rapidement, va entrer en collision avec notre galaxie dans 5 milliards d'années et on aura une flambée d'étoiles nouvelles.
Grâce à Hubble, on a pu découvrir en 98 que la vitesse de l'expansion de l'univers allait en s'accélérant alors qu'on la croyait constante. Hubble a montré que ce qu'on voyait au loin, qu'on pensait être des nuages, était en fait des milliards et des milliards de mondes, dit en 2015 le consultant d'Europe 1 Alain Sirou.
Quand vous regardez loin dans l'espace, vous regardez loin dans le temps parce que la lumière a traversé pendant des milliards d'années l'espace. Et ce que vous recevez, c'est quelque chose qui a été émis dans le passé.
Hubble est toujours dans l'espace aujourd'hui, mais il n'est plus réparé depuis 2009. Il a été remplacé par un télescope envoyé il y a 6 mois dans l'espace, le James Webb, le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, capable de voir au cœur des nébuleuses.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. À demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1. Dans un instant, la pénurie de techniciens dans les coulisses des concerts.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Indochine et sa tournée des stades, The Rolling Stones en France cet été, mais aussi la chanteuse Juliette Armanet sur les routes jusqu'à la fin de l'année. Après 2 ans d'empêchement, les artistes sont de retour sur scène. Problème en coulisses, ça coince niveau main-d'œuvre et matériel.
Bonjour Alexandre Coulet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes gérant de S Group. Votre société fournit du matériel pour des tournées d'artistes, pour les festivals, l'événementiel et les émissions télé. Alors, embouteillage de concerts ces prochains mois, sans parler de la multiplication de festivals condensés sur l'été. Sauf que dans l'ombre, Il manque des roadies, ces machinistes qui installent et démontent les scènes lors des concerts, qui voyagent de ville en ville. Il manque des techniciens son, des techniciens lumière. C'est encore une conséquence du Covid, Alexandre Coulet ?
C'est exactement ça. Vous avez touché du doigt les problématiques et effectivement post-Covid de notre profession. On a perdu effectivement du personnel qualifié à la fois. Et surtout, en fait, une reprise d'activité qui est plutôt forte, en fait, sur notre secteur d'activité. Aujourd'hui, il y a un regain important, mais qui reprend la dynamique qu'on avait juste avant le Covid. Donc, on est autour de 138% d'activité, ce qui est à la fois très intéressant, mais à la fois avec 10 à 15% de personnel qui ont changé de travail. Aujourd'hui, on est dans des difficultés, aujourd'hui, effectivement, pour être les meilleurs, en fait, ou en tout cas, pour parier au meilleur sur ces plateaux de festivals.
Est-ce qu'on risque de voir des concerts, des festivals annulés ces prochains mois par manque de bras en coulisses ?
Il y a ce risque-là. Il y a le risque effectivement que les choses soient légèrement aussi dégradées. Hein. Il faut le reconnaître. Parce que outre la problématique aujourd'hui de trouver du personnel, effectivement, on a aussi la problématique de retrouver également du matériel pour le nombre en fait de concerts et de tournées d'artistes qui sont programmés, pas qu'en France en fait, mais aussi dans le monde entier. Il faut savoir que le Covid s'estompe légèrement en fait, ou en tout cas est en diminution dans tous les pays. Hein, il faut le reconnaître. Donc tout le monde repart en fait en même temps, que ce soit la France, mais bien sûr l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Donc sur des périodes où on arrivait à jongler, on va dire. Dans un champ très large en fait, au niveau de l'Europe aujourd'hui, on est obligé de faire face à un surcroît d'activité et de partout dans le monde. Chez nous, je vous parlais de 10 à 15% en fait de personnel en moins. On parle en Belgique de 30%.
Oui, puis en plus, ils n'avaient pas le statut intermittent, les spécialistes des spectacles. Donc ça a été encore plus problématique pour eux, la crise du Covid.
Exactement. Dans le statut intermittent n'existe évidemment qu'en France. En fait, c'est à la fois un statut assez privilégié, mais à la fois, c'est ce qui aujourd'hui nous permet quand même d'avoir encore du personnel qui soit en fait compétent.
Quelle solution trouvez-vous pour maintenir les dates de concert quand cette menace pèse de ne pas avoir assez d'intermittents, de ne pas avoir assez de matériel ?
Eh bien, en fait, c'est justement la problématique aujourd'hui, c'est qu'on réduit en fait notre possibilité de pouvoir répondre sur des marchés. Ou autrement de diminuer en fait le matériel à monter. C'est voilà, à un moment donné, il faut réduire quelque part. On ne peut pas multiplier les heures de travail, c'est impossible et puis dangereux. Hein. Donc, on va essayer justement de compresser au maximum à la fois les heures de présence sur les concerts de nos techniciens. Donc, il va falloir et on est de plus en plus ingénieux dans nos plannings en fait pour arriver à le comprimer légèrement. Mais ce qu'on craint, en fait, effectivement, c'est les festivals qui vont arriver au mois de juillet, au mois d'août, où on va avoir, effectivement, du personnel qui risque d'être quand même un petit peu fatigué.
Oui, est-ce que vous avez peur de tirer un peu trop sur la corde ? C'est un risque aussi.
Exactement. Le risque qu'il peut y avoir, effectivement, c'est que le personnel s'épuise, en fait, et qu'à l'arrivée, on reperde encore du personnel supplémentaire parce qu'en fait, on a trop compté sur eux, quelque part, et puis le personnel est effectivement un petit peu épuisé d'une saison qui va être quand même longue.
Pensez-vous que cette situation risque de s'inscrire dans la durée ? Est-ce que c'est ce que vous craignez ? Puisque là, on parle effectivement d'un retour après Covid, mais ça peut durer plusieurs années ?
Alors, voilà, ce qu'on craint, en tout cas dans la profession, effectivement, on est sur une grosse dynamique sur notre secteur. C'est un secteur qui est en forte croissance. Et bon, voilà, vous êtes bien sûr au courant qu'il va y avoir les Jeux Olympiques en 2024. On va être sur une grosse dynamique en fait festive en France, entre autres, hein, mais en Europe en général. On était déjà sur une croissance de l'ordre de 14 à 15% en fait dans le monde entier sur notre secteur. Et avec des événements majeurs comme il est en train de se passer en France, en fait, effectivement, la progression va continuer en fait à deux chiffres évidemment dans notre secteur. Donc, il va falloir effectivement que l'on forme. Il va falloir que l'on soit un petit peu innovant dans notre façon de proposer effectivement des spectacles pour qu'en fait il n'y ait pas effectivement moins de temps de préparation, moins de temps de changement de plateau. Voilà, il va falloir effectivement trouver un petit peu d'air.
Et la formation justement, j'aimerais terminer là-dessus. Avez-vous le sentiment que ce métier de roadies, alors pour parler des concerts, hein, fait encore rêver les jeunes générations ?
Alors c'est un métier qui a besoin de se faire découvrir, clairement, c'est un métier passionnant. C'est un métier qui est très proche de l'industrie, hein, parce qu'on va retrouver... On va retrouver du robot, hein, tout le matériel aujourd'hui audiovisuel est robotisé. On va retrouver en fait tout ce qui est lié à l'informatique, tout ce qui est lié aux jumeaux numériques, tout ce qui a trait en fait à la nouvelle génération. On est dans un métier plaisant parce qu'on touche les artistes de très très près. Je suis convaincu qu'en fait ce métier-là a un grand devenir. Je reste persuadé que nos métiers vont pouvoir également grandir à l'international. Nos light designers, nos sound designers, en fait, sont plébiscités de partout dans le monde. Et votre prise d'antenne me permet également d'appeler cette jeune génération, pardon, à venir dans nos métiers, à venir nous rencontrer, à voir un petit peu ces hommes et ces femmes de l'ombre qui font un travail fabuleux et qui permettent à ce que ces spectacles aient lieu.
C'est entendu. Merci beaucoup, Alexandre Coulet, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes gérant de S Group, société spécialisée dans l'événementiel. Très bonne journée. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 6h10, Alban Le Prince.
Les États-Unis endeuillés une dizaine de jours après Buffalo. Nouvelle tuerie cette nuit dans une école du Texas. 19 enfants morts. Trop, c'est trop pour la vice-présidente Kamala Harris. Il faut relancer le débat sur les armes et affronter le lobby, a déclaré de son côté Joe Biden. En Ukraine, la Russie veut tout détruire dans le Donbass, selon Volodymyr Zelensky, le président, alors que Moscou affiche sa détermination à atteindre ses objectifs. C'est dans ce contexte que Kiev appelle à nouveau l'Occident à livrer davantage d'armes. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, encore des Français au second tour. Gilles Simon et Hugo Gaston obtiennent leur ticket, tout comme Caroline Garcia et Alizé Cornet chez les dames. Aujourd'hui, Corentin Moutet affronte son idole, Raphaël Nadal.
Il est 5h50, nous sommes mercredi et c'est le jour des sorties ciné.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, ça y est, c'est le grand jour.
Eh oui, ça y est, c'est le grand jour et quelle musique! Vous l'avez tous reconnu évidemment, c'est aujourd'hui que sort Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, film européen. Il nous aura fallu attendre 3 décennies pour retrouver avec bonheur le pilote Pete Mitchell, alias Maverick, qui n'a rien perdu, je vous rassure, de son côté tête brûlée et provocateur. Il est cette fois rappelé au sein de l'école Top Gun, non pas pour voler, mais pour devenir instructeur auprès des meilleurs pilotes du pays, pour les former en vue d'une mission particulièrement dangereuse. Le problème, c'est que parmi ces jeunes se trouve le fils de son ancien coéquipier Goose, dont la mort ne cesse de le hanter.
Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix.
Et c'est reparti.
On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance.
Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur.
Une suite qui tient ses promesses, dans laquelle on retrouve de nombreux clins d'œil à Top Gun. Il y a la fameuse scène très attendue entre Val Kilmer et Tom Cruise. Bref, tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier film qu'on retrouve dans Top Gun Maverick. Et puis Tom Cruise prouve encore une fois qu'il est l'une des plus grandes stars du cinéma. Il est intense, il est émouvant, il est crédible dans toutes les scènes d'action. On connaît son amour pour les cascades. D'ailleurs, il réalise lui-même certaines cascades, il pilote un avion. Et la génération aussi de jeunes comédiens tient bien la route. La relève est assurée avec notamment Miles Teller qui joue le rôle du fils du personnage de Goose. Écoutez justement Miles Teller et Joseph Kosinski, le réalisateur, nous parler de Tom Cruise.
Tom est le professionnel ultime, mais il prend aussi le temps de connaître absolument tout le monde sur le plateau. Il est incroyablement gentil, travailleur et passionné. Je pense que travailler avec Tom profite à tout le monde. J'en suis même sûr à 100%.
Comment était-il sur le tournage? Je dirais passionné, une passion qui se propage à toute l'équipe. Tout le monde sentait son énergie et c'est juste vraiment génial de travailler avec lui.
Et concernant la présence féminine, on retrouve la somptueuse Jennifer Connelly qui arrive à imposer son personnage et surtout son histoire avec Maverick en un battement de cils. Elle revient pour nous sur la relation de son personnage avec Maverick.
Mon personnage, Penny Benjamin, a été mentionné dans le premier film et ils se sont perdus de vue et cherchés l'un et l'autre pendant des années. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Ils sont bien ensemble. Elle est taquine avec lui, elle a beaucoup d'humour et elle le connaît vraiment très bien. Je pense qu'elle l'aime beaucoup, mais qu'en même temps, elle se pose des limites. J'aime beaucoup ce qu'ils sont tous les deux. Je suis d'accord pour dire qu'ils ont une très belle histoire d'amour dans le film.
Tout est réussi dans Top Gun Maverick et c'est vraiment un film à voir au cinéma avec des effets spéciaux grandioses, des scènes vertigineuses dans les airs, un scénario prenant, des acteurs parfaits et Tom Cruise, toujours impeccable, qui ne vieillit pas.
Autre sortie de la semaine, Laurie, une thérapie loufoque en harmonie avec la nature, une thérapie contre la déprime.
Oui, c'est le film « Homme au bord de la crise de nerfs ». Alors après avoir réalisé « Sous les jupes des filles » ou encore « Si j'étais un homme », la réalisatrice Audrey Dana revient avec un vrai feel-good movie sélectionné au dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Alors l'histoire, c'est celle de sept hommes que tout oppose, aussi bien dans l'âge, hein, ça va de 17 à 77 ans, que dans le travail. Et ils ont pourtant tous un point commun, ils sont déprimés. Et la seule solution pour eux, c'est un stage en pleine nature, sans aucun réseau, réservé uniquement aux hommes et dirigé par une femme aux méthodes assez spéciales.
Enfin, y a rien là.
Laissez résonner le mot, rien.
Il n'y a même pas de réseau.
Quoi,
non. Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours.
Oh putain. Oh, je peux te couper. Non, ça va, ça va. Ah si, putain, si.
Allez. Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau.
Tu m'aides à accueillir les carottes?
Non.
Mais non, je crève, là.
Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Toujours.
Oui, parfois dans la gueule aussi.
Vous savez ce qu'on vit, là? On est en train de se tricoter des souvenirs.
C'est vraiment une très jolie et très drôle comédie chorale avec un casting de folie. Thierry Lhermitte, Ramzi Bedia, François-Xavier Demaison, Laurent Stoker, Pascal Demolon, Michael Gregorio et bien sûr Marina Hans en chef du groupe.
Homme au bord de la crise de nerfs donc et Top Gun Maverick, film européen. Voilà deux bonnes raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Laurie Choleva.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et une guerre d'usure.
Oui, c'est possiblement la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine. 3 mois, jour pour jour, après le début de l'invasion de l'Ukraine et l'échec de la prise éclair de Kiev. Le Kremlin pourrait être tenté par une guerre d'attrition, un conflit gelé qui lui permettrait de reconstituer ses forces. Il faut dire que 15 000 soldats russes auraient été tués depuis le 24 février dernier, selon plusieurs estimations occidentales. C'est colossal et ce n'est pas terminé, vu que les combats s'intensifient autour de la ville de Severodonetsk, dans le Donbass. C'est le dernier verrou de la région de Louhansk. On en parle dans une dizaine de minutes avec notre invité, l'historien militaire Cédric Mas. Et puis on écoutera ensuite votre partition, Blin.
La chanteuse Lizzo de retour avec un nouveau titre. Ces chansons, ces clips, ces apparitions sur scène sont des manifestes contre le rejet de l'autre et la musique conventionnelle. Lizzo dans la partition dans 20 minutes.
Anissa Haddadi pour la météo et le temps est agité dans le sud.
Oui, dans l'extrême sud effectivement. Avec des pluies là actuellement entre Perpignan et Nice, hein, c'est déjà très pluvieux au bord de la Méditerranée, avec un ciel qui va rester nuageux toute la journée, des nuages qui vont rester menaçants également. Sur les Pyrénées aussi, nous allons avoir des averses qui vont rythmer toute la journée, avec même parfois des coups de tonnerre. Tiens, en parlant de coups de tonnerre, ça va concerner l'extrême sud-est entre les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur aujourd'hui. L'orage gronde et l'orage risque de gronder au-dessus de la Croisette. On risque de voir des éclairs au-dessus des marches du Festival de Cannes. On va surveiller ça de près parce qu'il y a quand même deux événements où la pluie est gênante. C'est Roland-Garros et le Festival de Cannes. Festival
surtout
de Cannes pour
Roland-Garros.
Les brochings. Non mais pour les brochings, Roland-Garros. Bon d'accord, okay, ça ne vous intéresse pas.
Non,
ça ne vous intéresse
pas. Non, pas non, plus c'est... les films que les brochings.
Oui, bah, écoutez, je suis la météo aussi pour les Hollywoodiens qui nous écoutent le matin sur Europe 1. Sur la pointe bretonne et sur le Cotentin, on a quelques nuages ce matin. Des nuages qui vont s'étendre jusqu'au Pays de la Loire et jusqu'en Normandie cet après-midi. Bon, c'est une journée un peu de transition. C'est moins nuageux qu'hier, mais on a encore quelques zones où la pluie menace. Alors les températures, elles sont plus fraîches, on se couvre ce matin, 2 à Charleville-Mézières, 5 à Nancy, 9 à Paris, 11 à Cherbourg, 18 à Nice et cet après-midi, 16 à Cherbourg, c'est encore frais, 19 à Rennes et Lille, 21 pour Paris et Clermont-Ferrand, 24 à Lyon, 27 pour Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1, excellent début de journée à tous, nous sommes le mercredi 25 mai. Il est 6h. Et si c'était aussi la faute du réchauffement climatique, les nuits agitées, un cauchemar pour la plupart des Français. Une étude fait le lien entre hausse des températures et baisse de la qualité de notre sommeil. Explication dans un instant. Affronter le lobby des armes à feu. L'appel de Joe Biden après une nouvelle fusillade dans une école primaire américaine. 19 enfants ont été abattus cette nuit. Et puis l'ancien ministre Alain Griset devant la justice pour abus de confiance. Son procès s'ouvre aujourd'hui après une première condamnation pour déclaration incomplète de son patrimoine. Les enjeux de l'audience dans cette édition.
Europe. Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Édition qui vous est présentée par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 7 degrés à Limoges, 6 à Caen, 11 à Strasbourg. Vous vous en êtes aperçu, les nuits se sont rafraîchies et vous dormez sûrement beaucoup mieux. Il faut dire que la semaine dernière, la France étouffait. Et avec le réchauffement climatique, cela ne va pas s'arranger.
Un dérèglement des températures qui aura même des conséquences profondes sur notre sommeil.
Oui, c'est la conclusion surprenante d'une étude danoise publiée dans la revue One Earth. Leur cobaye, 47 000 adultes dans 68 pays différents. Marion Gauthier, ces chercheurs font donc un lien entre hausse des températures et la qualité de nos nuits.
Oui, parce que pour dormir, il faut refroidir. C'est lorsque sa température est la plus basse que le corps sécrète le plus d'hormones du sommeil. La température extérieure peut gêner ce processus, retarder l'endormissement et provoquer des réveils dans la nuit, précise Rachel Deps. Elle est responsable de l'unité du sommeil du CHU de Toulouse.
Au-delà de 25 degrés de température extérieure, on va avoir un impact important sur la quantité d'heures de sommeil. Et là, c'est une diminution qui a été relevée, c'est-à-dire qu'on passe à des nuits qui qualifient de courtes, donc moins de 7 heures.
7 heures, c'est le temps minimum pour un sommeil réparateur. Dormir moins, ce n'est pas sans conséquence, détaille Rachel Deps.
Le sommeil, c'est une phase de récupération pour différents organes. Vous avez bien sûr le cerveau, ce qui fait que si vous dormez moins, vous avez des capacités de concentration et de mémoire qui vont être modifiées. Vous allez avoir également des modifications de l'humeur non négligeables. Si vous dormez moins, vous avez plus tendance à prendre du poids, etc., etc.
Et nous ne sommes pas tous égaux. Les plus âgés, qui régulent moins efficacement la chaleur, perdent plus de sommeil, comme les habitants des pays en voie de développement, par exemple. La faute peut être à l'absence de climatisation. C'est en tout cas une hypothèse qu'avancent les scientifiques.
Les explications de Marion Gauthier.
C'est l'information de la nuit. 19 enfants tués dans une nouvelle fusillade aux États-Unis.
Le tireur a aussi abattu 2 adultes dans une école primaire du Texas. Lui a été tué pendant l'assaut. 22 morts au total. On ne connaît pas encore les motivations de l'attaque. Il est temps de transformer la douleur en action. Déclaration du président américain Joe Biden qui plaide pour une régulation des armes aux États-Unis, un pays où un tiers des Américains en possède au moins une. La vice-présidente Kamala Harris a elle aussi appelé le Congrès à agir, incapable de légiférer sur le sujet.
Dans un moment comme celui-ci, je dirais, nous dirions tous naturellement que nous avons le cœur brisé. Mais nos cœurs continuent d'être brisés et nos cœurs brisés ne sont rien comparés à ceux de ces familles. Et pourtant, cela continue de se produire. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. En tant que nation, nous devons avoir le courage d'agir. Pour s'assurer qu'une telle chose ne se reproduise jamais.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a noté que les drapeaux des bâtiments publics seront en berne jusqu'à samedi dans tout le pays.
Les États-Unis qui appellent par ailleurs ce matin au dialogue face aux tentatives d'intimidation de la Corée du Nord.
Pyongyang a tiré 3 missiles cette nuit, quelques heures à peine après le départ de Joe Biden. Le président américain vient de terminer sa tournée en Asie, un déplacement où il a réaffirmé son soutien à Séoul et Tokyo face à la menace nucléaire de la Corée du Nord. En France, Jean-Baptiste Djebbari stoppé net dans son projet de reconversion. L'ancien ministre des Transports visait un poste chez le transporteur CMA-CGM. C'est non, lui répond la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui souligne un risque de conflit d'intérêts.
Lui aussi faisait partie du gouvernement avant de démissionner suite à sa condamnation. Alain Griset est devant le tribunal correctionnel de Lille aujourd'hui.
L'ex-ministre des PME comparaît pour abus de confiance. Cet hiver, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour déclaration incomplète de son patrimoine. Gladys Laffitte, aujourd'hui, c'est donc le second volet de cette affaire qui va être jugé.
Ah oui, c'est en fait le fond du dossier qui est examiné cet après-midi. C'est-à-dire que le tribunal doit déterminer si Alain Griset a détourné à son profit l'argent qu'il avait omis de déclarer avant d'entrer au gouvernement. Il s'agit de 130 000 euros qui appartiennent à l'origine à la CNAMS, la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services du Nord. Alain Griset en était le président. Pour rappel, il était chauffeur de taxi dans son ancienne vie et il a déjà expliqué qu'il était bien conscient que cette somme ne lui appartenait pas. Elle lui avait été confiée par la CNAMS du Nord pour la faire fructifier afin d'acheter un bien immobilier, je cite. L'ex-ministre s'était d'ailleurs félicité d'avoir fait une plus-value de 19 000 euros. Et c'est sans doute ce qu'il dira au tribunal aujourd'hui. Il sera bien présent pour se défendre. Alain Griset encourt 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
L'autre rendez-vous rendez-vous judiciaire du jour, c'est l'audience du tribunal administratif de Grenoble.
Oui, décision attendue sur l'autorisation du burkini, un maillot de bain couvrant accepté dans les piscines de la ville à partir du 1er juin. Le tribunal a été saisi par le préfet de l'Isère après le feu vert du conseil municipal la semaine dernière. 6h05, il aura mis 2 heures pour battre un record du monde.
Oui, on vous en parlait hier matin, ici même dans ce journal, le français et funambule Nathan Pollin a réussi son challenge.
Oui, marcher pendant 2 km 200 sur une sangle de 2 cm. Pieds nus, trop facile. Il est donc arrivé au sommet du Mont Saint-Michel et à l'arrivée, en toute décontraction, il a même parlé de son prochain défi, Julien. C'est partir de la Tour Eiffel jusqu'à la Tour Montparnasse. Voilà, 2,7 km. L'histoire ne dit pas si on va plus vite en funambule qu'en voiture dans Paris.
Sûrement funambule est plus
peut-être,
rapide.
Ouais, peut-être.
Je pense. En tout cas, je vous invite à aller sur le site
europe1.fr.
Non, d'aller voir les images absolument
oui,
magnifiques
très
du Mont Saint-Michel, enfin de la tentative d'hier. Réussi donc. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h05 et c'est le journal des sports de Martin Lange. L'info de la nuit, Martin, c'est la victoire de Gilles Simon à Roland-Garros.
Oui, au bout de la nuit, dans une ambiance de stade de foot, Gilles Simon, 37 ans, est venu à bout de l'Espagnol Carreno Busta, 18e mondial. Une victoire en 5-7 après 4 heures de bras de fer. Et Simon, qui dispute son dernier Roland-Garros, pouvait remercier les irréductibles du cours Simone Mathieu.
Il reste que des génies à la fin, de toute façon, à 1h30, il reste que les vrais. C'est ultra important parce que quand à un moment, Pablo me roule dessus. Et ils sont là en fait, ils gueulent, ils chantent, ils n'arrêtent pas, ils n'ont jamais arrêté du premier au dernier point.
Un mousquetaire qui rit et un autre qui pleure, Joe Wilfried Tsonga a dit adieu à la petite balle jaune hier. Défaite en 4-7 contre Casper Ruud, mais là aussi le public était au rendez-vous. Il a rendu un vibrant hommage au colosse Tsonga, visiblement très ému.
C'est une des plus belles ambiances que j'ai vécues dans ma carrière et elle arrive sur mon dernier match. Et franchement, je ne pouvais pas demander mieux, je ne pouvais pas demander de meilleur scénario presque, hormis le fait que j'aurais pu gagner. Voilà, c'est ça qui va me manquer en fait.
Dans les autres résultats de la journée, à noter aussi la très belle victoire d'Hugo Gaston qui sort la tête de série numéro 19, l'Australien Alex de Minaur.
Le chiffre du jour, Martin.
10 comme le nombre de Français qualifiés pour le second tour, 5 hommes et 5 femmes. Et ça commence aujourd'hui avec notamment Corentin Moutet qui affronte son idole Nadal. À suivre aussi Diane Paris ou encore Richard Gasquet.
On passe au football avec la saison galère du PSG féminin qui continue.
Oui, après l'agression de Keira Amraoui en novembre, une affaire toujours pas réglée. Hein, c'est l'entraîneur Didier Olé-Nicole qui est pointé du doigt. Une enquête interne a été ouverte à la suite d'un geste déplacé du coach sur une joueuse mineure à l'époque. Olé-Nicole a été mise à pied hier à titre conservatoire. Retour au terrain pour finir avec une finale de Coupe d'Europe ce soir. La Ligue Europa Conférence, la Roma de José Mourinho affronte les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam, tombeur de l'OM au tour précédent.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous, 3 mois de guerre en Ukraine. Et maintenant, on en parle dans une minute avec l'historien militaire Cédric Mass. A tout de suite.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1, il est 6h09. Votre invité Julien est historien militaire et président de l'Institut Action Résilience.
Bonjour Cédric Mass.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe concentre depuis quelques jours l'essentiel de ses forces dans le Donbass et particulièrement autour de la ville de Severodonetsk. En quoi est-elle stratégique, Cédric Mass ?
Alors, cette ville est de moins en moins stratégique. Elle est surtout importante pour les Russes car c'est une des dernières villes avec Lysychansk qui est encore dans l'oblast séparatiste, c'est-à-dire l'une des deux républiques séparatistes. Or, la Russie s'est engagée à libérer ces deux républiques, dont celle de Louhansk, et il reste ce dernier bout de terrain symbolique qui est encore rattaché administrativement à la République séparatiste de Louhansk et qui résiste parce qu'il est encore défendu avec acharnement par les forces ukrainiennes.
Particulièrement symbolique aux yeux de Kiev, puisque je crois qu'en 2014, la ville avait été reprise déjà par les Ukrainiens aux séparatistes pro-russes.
Exactement, comme Mariupol d'ailleurs, c'est-à-dire c'était des villes qui faisaient partie des républiques séparatistes et qui avaient été reconquises par les forces ukrainiennes, dont une grande partie de bataillons de volontaires d'ailleurs, qui ont été ensuite intégrés dispersés selon la sélection faite par l'armée ukrainienne. Mais c'est un ensemble très important, Severodonetsk et Lysychansk, c'est un ensemble urbain qui est d'une taille à peu près équivalente, voire légèrement plus importante en superficie, à celle de Mariupol. C'est une ville industrielle, c'est une ville très urbanisée, mais qui est au bout de la pointe du saillant formé depuis 2 mois maintenant par les forces russes et défendu avec acharnement, je le répète, par les forces ukrainiennes.
Ce sont des villes industrielles d'une taille similaire à Mariupol que vous avez cité. D'ailleurs, certains disent que Severodonetsk est la Mariupol du Donbass. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Alors, il y a des similitudes que nous venons de rappeler, mais aussi des différences très importantes. Severodonetsk et Lysychansk ne sont pas encore à ce jour encerclés. Les routes qui permettent aux Ukrainiens d'amener du ravitaillement et d'effectuer des renforts éventuels, ces routes sont sous le feu des forces russes, sont à portée des opérations des forces spéciales et des possibilités d'infiltration des Russes, mais ne sont pas encore coupées. Donc, il n'y a pas encore d'encerclement. Autre chose, ce n'est pas un port stratégique sur la mer d'Azov comme Mariupol, c'est simplement terminer, dessiner sur la carte l'intégralité d'une république. Ça ne signifie rien d'autre. On est vraiment au bout du saillant de Kramatorsk. C'est-à-dire que depuis deux mois, les forces russes ont fait évoluer vers le plus à l'est possible leur effort, signe que la résistance ukrainienne leur pose des soucis.
Oui, mais du côté ukrainien, depuis quelques jours, on reconnaît, je cite, des difficultés dans le Donbass. Est-ce que c'est une manière diplomatique de dire que les Russes ont repris l'avantage ?
Alors, les Russes n'ont pas repris l'avantage, ils ont toujours conservé l'initiative, ce qui est un élément très important d'avantage sur le terrain, surtout si vous y associez la supériorité aérienne dont disposent les Russes malgré les missiles antiaériens livrés aux Ukrainiens. Donc ces deux facteurs font que depuis le début, ce sont les Russes qui choisissent les endroits où ils produisent leur effort et nécessairement en mettant le meilleur de leurs forces, c'est-à-dire des unités de troupes aéroportées renforcées par les mercenaires de la compagnie Wagner qui sont en nombre dans la zone et renforcés par les supplétifs tchétchènes de Kadyrov, eh bien nécessairement ils arrivent à produire un effet, mais on parle de progression de quelques dizaines de quelques kilomètres, voire une dizaine de kilomètres au maximum. En revanche, il est vrai que le discours ukrainien de reconnaître ses pertes et les difficultés est un petit peu nouveau, et c'est aussi la résonance au fait que les troupes sur le terrain, les troupes ukrainiennes qui défendent Severodonetsk, se plaignent de ne pas avoir été relevées, de ne pas recevoir de renforts, et craignent de finir comme les hommes de la garnison de Mariupol, humiliés, fouillés en public et prisonniers.
Vous dites que la Russie met le meilleur de ses forces autour de Severodonetsk. Ça vaut aussi pour le matériel, parce que selon le ministère britannique de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine a déployé ses chars les plus modernes, une dizaine d'engins au total répondant au nom de Terminator 2. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne ?
Alors, ça peut changer la donne tactiquement. Maintenant, on est sur un front. Rien que le saillant de Kramatorsk, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés. Donc, ce n'est pas une dizaine d'engins qui ne sont pas des chars exactement. Ce sont des
de
outils
d'appui, troupes, oui.
De soutien des tanks, justement. C'est un char qui est le plus récent, qui a été conçu et mis en œuvre, parce qu'il y a des chars plus récents qui ont été conçus seulement pour des raisons de propagande à ce jour, qui ne sont pas alignés. Mais c'est un engin blindé qui a été conçu pour permettre aux tanks de pouvoir lutter en ville contre de l'infanterie qui s'infiltrerait dans les habitations. C'est la leçon tirée des échecs de l'armée russe à Grozny, en Tchétchénie. Donc c'est en effet un engin très récent. Mais en revanche, le modèle de tank le plus récent avait été engagé plutôt à Kharkiv. Et d'ailleurs, c'est là où un de ces engins, les T-90M, M pour moderniser, avait été perdu, détruit par les forces ukrainiennes. Donc des deux côtés, on fait assaut de propagande et aussi on fait assaut de matériel.
Cédric Mas, le conflit entre dans son quatrième mois. Est-ce qu'on s'oriente vers une guerre longue où après les grandes manœuvres ratées des premières semaines, cette guerre éclair, les positions désormais se figent ?
Alors, on est forcé de constater qu'elle se fige sur la carte, mais on est sur un plateau qui peut basculer. Et puis, je vous répète l'objectif. Nous avons parlé de l'objectif des Russes, mais il y a aussi l'objectif des Ukrainiens, qui est la reconquête. Et la reconquête de ce territoire, ça va nécessiter de relancer des manœuvres à un moment donné pour libérer les zones qui ont été envahies par les forces russes. Et surtout, ça va nécessiter de reprendre enfin l'initiative aux forces russes que le commandement ukrainien n'a toujours pas été capable de faire à ce jour.
Oui, mais est-ce que c'est pas l'intérêt des Russes, justement, de mener cette forme de guerre d'attrition, cette guerre d'usure, qui leur permettrait par ailleurs de reconstituer leurs forces, de former de nouvelles recrues ?
Alors, la guerre d'attrition n'est jamais l'intérêt d'une armée qui est à l'initiative comme l'est l'armée russe. C'est-à-dire que les pertes qui sont subies pour chaque avance de quelques kilomètres, songez que la percée de Popasna, c'est 6 kilomètres en plus de 15 jours, avec des pertes effarantes, un niveau de perte très important. Donc, aucun des deux camps n'a intérêt à une guerre d'attrition. Malgré cela, c'est une des formes de guerre que nous constatons pour l'instant. Les niveaux de pertes sont très élevés et le déplacement vers l'est de l'effort principal russe correspond aussi à une réduction des secteurs et des fonds concernés par cet effort, ce qui montre que les effectifs disponibles pour des opérations offensives se réduisent au sein de la Russie, qui a d'ailleurs besoin aujourd'hui pour mener cette offensive des mercenaires de la compagnie Wagner, puisque ses forces régulières ne sont plus suffisantes pour la mener à elles seules.
Cédric Mas, ce sera ma dernière question et je vous demande de bien vouloir y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous voyez l'Ukraine gagner cette guerre ?
Personne ne peut savoir à l'avance qui va gagner une guerre. Il y a des évolutions qui sont plutôt négatives. Il y a une baisse des effets du côté russe. Il y a une haute montée en puissance de l'armée ukrainienne, mais il y a un plafond de verre, cette capacité à pouvoir manœuvrer et prendre l'initiative qui est bloquée du côté ukrainien pour l'instant.
Merci infiniment, Cédric Mas, de nous avoir éclairé ce matin, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Excellente journée à vous.
Merci.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la partition de la chanteuse Lizzo.
Europe 1. Votre partition ce matin, Omblin, se penche sur une chanteuse inclassable. Elle s'appelle Lizzo et depuis 3 ans, elle est le phénomène de la musique américaine.
Inclassable. Effectivement, Julien, jugez plutôt, Lizzo est rappeuse, elle est chanteuse et s'épanouit aussi bien dans la pop, la soul que le funk. Une femme noire aux formes généreuses, icône du mouvement body positive qui prône l'acceptation de soi.
Ardente défenseuse de la communauté LGBT, ses prises de position ne sont pas sans rappeler celles de Bess Ditto.
Oui, la tête de proue du groupe de Gossip. Lizzo tient la dragée haute aux superstars Missy Elliott, Rihanna et la filiforme Ariana Grande. Mais ce qui fait son incroyable particularité, c'est qu'elle est flûtiste de formation classique et il n'y a qu'elle qui peut twerker cette danse qui consiste à bouger ses fesses d'avant en arrière en jouant de la flûte traversière.
Le parcours de Lizzo est à l'image de son œuvre inattendue.
Celle qui s'appelle Melissa Jefferson, née dans le Détroit d'Aretha Franklin, déménage dans le Houston de Beyoncé, cap ensuite vers la cité de Prince, Minneapolis, avant de s'installer à Los Angeles. Autant de villes qui vont marquer sa musique, c'est son père qui l'initie à la flûte traversière, maîtrisant parfaitement les partitions de Chopin, Debussy et Francis Poulenc.
Et c'est à l'adolescence que Lizzo découvre le rap.
Oui, et s'y consacre pleinement. C'est d'ailleurs grâce à la culture du hip-hop qu'elle se réconcilie avec son corps. Lizzo est ronde et s'assume. Mieux que ça, elle s'aime.
Sa carrière commence doucement avec un premier album en 2013.
Oui, s'il ne remporte pas un succès tonitruant dans les classements, il a au moins le mérite d'installer son nom. Lizzo s'offre surtout l'opportunité de collaborer avec son voisin, le chanteur Prince.
Son deuxième album est mieux accueilli par la critique. Hein.
Lizzo reste pourtant incomprise par l'industrie de la pop. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Le succès mondial arrive avec le troisième disque, 'Cause I Love You, qui lui vaut d'être couronnée artiste de l'année 2019 par le magazine Time. Elle est encensée aux Grammy Awards, des récompenses musicales américaines. Lizzo, au succès à retardement, promet de signer le prochain tube de l'été. Écoutez. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah.
sentimental, man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Single de la chanteuse américaine Lizzo, franchement funk sur les bords. Hein, on se disait hors antenne, c'est du Bruno Mars style, ça s'appelle About Damn Time, un avant-goût de l'album de Lizzo baptisé Special qui sortira le 15 juillet. C'est son quatrième album.
Merci beaucoup, Omblin. Excellente matinée sur Europe 1. On vous retrouve demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.